Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur Transistor et je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du journal radiophonique amplifié du mercredi 1er février. Comme d'habitude, nous partons pour 3 quarts d'heure à l'écoute des bruits du monde et vous les retransmettons mixés, égalisés, montés et bien sûr amplifiés. Cette fois encore, ces bruits seront politiques, bien sûr, et j'imagine que Donald Trump et François Fillon s'octroieront une bonne partie de notre temps d'antenne aujourd'hui.
Parfaitement au hasard.
Mais aussi économiques, scientifiques, culturels et autres. Encore, cette édition sera aussi l'occasion pour nous, chers auditeurs, de faire la rencontre de deux nouvelles voix, répondant toutes deux au nom d'Alice, c'est pratique pour faire les désannonces. La première reprend le flambeau de l'édito scientifique qu'elle assurera un numéro sur deux. La seconde abordera en fin d'émission l'actualité sous le prisme décalé de la culture pop. Mais pour l'instant, il est l'heure du rappel des titres présenté par Mathias. Bonjour Mathias.
Bonjour Rémi. On ouvre ce journal avec la politique. Nouvelle révélation dans le canard enchaîné concernant ce qu'il convient d'appeler maintenant un Fillon Gate. Selon le Palmipède, Pénélope Fillon n'aurait pas touché 600 000 mais 900 000 euros bruts grâce à ses emplois présumés fictifs comme assistante parlementaire et collaboratrice à la Revue des Deux Mondes. L'ardoise monterait jusqu'à 84 000 euros pour les enfants du couple Fillon embauchés comme avocats auprès de leur père alors que ceux-ci n'étaient encore qu'étudiants. De plus, le refus de François Fillon de faire la liste des clients de sa société de conseil et de conférences 2F Conseil, fondée en 2012 et qui lui aurait rapporté jusqu'en 2015 près de 760 000 euros, selon le journal Le Monde, suscite la polémique. Le candidat à la présidentielle sème le trouble jusque dans son propre camp. Au micro de France Info, le député Les Républicains Georges Fenech a déclaré tout haut ce qui se dit déjà tout bas chez Les Républicains depuis quelques jours, à savoir que la candidature de François Fillon était compromise. Des internautes ont déjà remarqué l'apparition soudaine de noms de domaines comme vauquier2017.fr ou pécresse2017.fr, mais il n'est pas permis de faire la part des choses entre une ambition assumée ou de simples canulars. Quant au principal intéressé, François Fillon, il a déclaré qu'il s'agissait d'un coup d'État institutionnel de la gauche et il a aussi assuré qu'il irait jusqu'au bout de la campagne présidentielle. Cependant, un sondage donne pour la première fois François Fillon exclu du second tour de la présidentielle. Un sondage Elab commandé par Les Échos et Radio Classique donne François Fillon à 19 ou 20% des intentions de vote. Derrière Emmanuel Macron, entre 22 et 25%, et Marine Le Pen, entre 26 et 27%. Benoît Hamon devancerait Jean-Luc Mélenchon avec 16 ou 17% des voix, contre 10% pour le candidat de la France Insoumise. C'est le premier sondage réalisé après la nomination de Benoît Hamon, vainqueur dimanche de la primaire de la Belle Alliance Populaire, avec plus de 58% des voix face à Manuel Valls. Politique toujours, Marine Le Pen, qui refuse toujours de rembourser les 300 000 euros que lui réclame le Parlement européen pour une autre histoire d'emploi fictif d'assistante parlementaire, a renoncé à une des mesures phares du Front National depuis les années 80. Le rétablissement de la peine de mort n'est plus dans le programme frontiste. À la place, la candidate met l'accent sur la perpétuité réelle et laisse la porte ouverte au rétablissement de la peine capitale seulement par voie de référendum d'initiative populaire. Macron dévoile un peu plus les lignes de son programme économique, c'était ce matin sur France Inter. Réforme du RSA, pérennisation et transformation du CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, pour bénéficier aux petites entreprises et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Suppression de la totalité des charges au niveau du SMIC, refonte de l'ISF qui deviendrait une taxe sur la rente immobilière. Concernant les 35 heures, le candidat a déclaré qu'il conserverait la durée légale du travail à 35 heures, mais qu'il ouvrirait la possibilité de négocier sur cette question par des accords de branche ou d'entreprise. Politique étrangère maintenant, Donald Trump a fait le choix du conservateur Neil Gorsuch pour remplacer le siège de la Cour suprême laissé vacant après la mort d'Antonin Scalia. Neil Gorsuch est ce qu'on appelle un originaliste, c'est-à-dire qu'il est partisan d'une lecture littérale de la Constitution et considère donc qu'elle n'a pas à s'adapter aux changements de société et que les juges n'ont pas, sur ces questions, à remplacer le législateur. C'est une bataille qui s'ouvre après cette nomination, qui doit être validée par le Sénat, où les démocrates ne manqueront pas de s'opposer. À la mort d'Antonin Scalia, Barack Obama avait proposé en vain le juge Merrick Garland pour le remplacer, ce que le Sénat à majorité républicaine avait réussi à bloquer. Sport, une fois n'est pas coutume. La cour d'appel de Montpellier a condamné aujourd'hui les frères Nicolas et Luca Karabatic à 2 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende chacun dans l'affaire des paris truqués de 2012. Et enfin, pour terminer ce journal, sur une note positive, je vous propose de retourner en enfance. Le dessin animé des années 80, Il était une fois la vie, sera diffusé à partir de mars sur France 4 dans une version restaurée. De l'argent et la vie, c'était le résumé de ce journal.
Un petit souci technique en régie, mais c'est pas très grave, ça vous donne un avant-goût de ce dont il va être question dans la revue de presse de Marie. Revue de presse dont j'imagine qu'elle va probablement porter à tout hasard sur Fillon et Trump, comme je le disais en introduction, Marie.
Parfaitement à tout hasard.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors il y en a un qu'on ne peut pas trop rater dans la presse cette semaine, c'est François Fillon.
Exactement Rémi, et ça cogne. Alors bien sûr, le canard enchaîné ne va pas s'arrêter sur la si belle lancée de la semaine dernière. Et ce gros titre, qui veut gagner 1 million d'euros à l'euro Fillon ? Bon, on ne fera pas de blagues douteuses sur Eurofion, tout ça, tout ça. Le canard révèle qu'en tout, avec l'argent touché par Pénélope Monet-Penny-Fillon, plus l'argent refilé aux gosses, la petite boutique familiale atteint le 1 million d'euros, rien que ça. Donc ça, Mathias vous en parlait un peu tout à l'heure dans son rappel des titres. Et Mediapart en rajoute une couche ce matin avec le job de senior advisor de Fillon pour le groupe Ricole Lasteri, cabinet de conseil pour multinationales coté au CAC 40. Voilà, on a trouvé le bon plan, 40 000 à 60 000 euros par an, c'est quand même pas mal payé pour juste, je cite, « aider à réfléchir aux défis de la globalisation ». Et ce travail, le candidat ne l'a jamais déclaré. Et la journaliste de Mediapart d'ironiser « Bah alors, le consultant Fillon doit plus consulter beaucoup depuis quelques mois, il est quand même un peu occupé. » Réponse de Ricole, le patron de Ricole Lasteri. Oui, mais il nous a toujours pas envoyé sa lettre de démission. Et ça, c'est pas de la fiction, contrairement au faux journal de Pénélope F, à retrouver dans le canard enchaîné histoire de rire un peu de cette histoire. Je cite un petit extrait pour le plaisir. Bonjour, my name is Pénélope F. Je dois garder l'anonymat car mon mari ne sait pas que j'écris gratuitement dans le canard. Un travail à domicile, pas du tout fictif. La politique, ça me connaît. N'oubliez pas que je suis la première conseillère stratégique de mon sourcilleux.
Et la tourmente autour du sourcilleux candidat semble en inquiéter certains.
Oui, c'était dans l'édito de Christophe Barbier pour l'Express, numéro sorti ce matin. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Admirez-moi cette admirable prose. Comme un échassier meurtri derrière un taureau blessé, elle a glissé sa silhouette élégante dans le sillage de son mari pour le premier grand meeting de la campagne présidentielle des Républicains. C'est beau, hein ? Je sais pas pourquoi, ça n'a pas encore le Goncourt, tout ça. Bref, le syndrome de Pénélope, c'est le titre de l'édito. Qu'est-ce que c'est que ça ? Paraîtrait que c'est comme ça qu'on désigne les gens qui défont leur propre travail, consciemment ou pas, volontairement ou pas. Eh ben oui, bingo, Fillon, c'est Pénélope. Il est en train de détricoter tout le personnage de probité candide et de lin blanc qu'il avait construit pendant la primaire de la droite. Bon alors nous, on rigole. Mais le pauvre éditorialiste de l'Express, ça l'inquiète vraiment tout ça. L'homme qui veut la vérité sur la France, il ment sur lui-même. Et on glisse vers les grandes conclusions de la politique fiction. Et si, une fois élu, Fillon ne tenait pas ses promesses ? Comme Chirac, comme Sarkozy, comme Hollande aussi. Pire, et s'il cédait devant les syndicats ? Brrr, on en a des frissons. Fillon se fait afficher par la presse d'investigation parce qu'il a filé du fric à sa famille via des emplois fictifs, ou supposés fictifs. Quel est le rapport avec le fait de ne pas tenir ses promesses conservatrices une fois élu ? Non, moi non plus, je comprends pas trop la logique. Mais bon, c'est les gens de l'Express aussi, vous vous attendiez à quoi ? Et l'éditorialiste de conclure que Pénélope, c'est pas comme Pompeia Sulla, bien sûr tout le monde sait qu'il s'agit de la femme de César, n'est-ce pas ? Pénélope, eh bien elle n'est pas restée au-dessus de tout soupçon, quand je vous disais que l'Express, ça valait le détour.
Décidément, quel beau journal. Enfin bon, assez de figonneries pour aujourd'hui, Marie, on peut quand même pas faire une revue de presse décente sans faire une escale à Trumpland.
Et tout à fait, Rémi, faisons un petit détour par le numéro de Libération d'hier et l'édito de Johan Hufnagel, fou furieux au pluriel. Le problème avec Trump, enfin non, l'un des millions de problèmes avec Trump, c'est que les journalistes, et nous avec eux, nous ne savons pas si Trump c'est un sombre idiot ou un esprit du mal. Dans cet édito, on est plutôt dans la team « Prenons Trump très au sérieux », avec un journaliste qui fait le pari que Trump et sa bande de fous furieux vont, je cite, « tester tous les pouvoirs de la démocratie américaine à grands coups d'alternative facts, dans une contre-révolution raciste et ultra-conservatrice ». Donc pour lui, ce serait vraiment une vraie stratégie. D'ailleurs, le chef de stratégie de Trump a déclaré la semaine dernière que les médias étaient le parti d'opposition contre la majorité présidentielle, rien moins que ça pour ce que les Américains considèrent comme le quatrième pouvoir. C'est donc un long combat qui nous attend, un combat qui regarde autant les Américains que la communauté internationale, pour reprendre l'idée de Johan Hufnagel.
Et alors, autre chose dans les fameux partis d'opposition ce matin ?
Oui, alors histoire de changer un peu, on va jeter un coup d'œil du côté de la une assez différente proposée par La Croix sur l'avenir de l'Algérie. Le journal consacre une double page à la situation algérienne, dont on n'entend pas spécialement parler ailleurs en ce moment, j'ai l'impression. On y retrouve une peinture assez pessimiste entre austérité économique, mécontentement social, dégradation du pays dans le classement sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. Perception de la corruption dans le monde, bon, dommage, l'article n'explique pas comment on calcule cet indice, mais bon. Une Algérie donc avec des élections truquées aussi, et un président Bouteflika absolument indéboulonnable qui a bien l'intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2019, ce serait donc son cinquième mandat.
Tout va bien.
C'est bien simple, en Algérie, la fraude électorale est si importante que les gens s'abstiennent de voter, et du coup les résultats sont encore plus faciles à truquer, CQFD. Et pour refermer cette revue de presse, la sortie ce matin du nouveau numéro du 1, la thématique de la semaine c'est, je cite, « France-Rwanda, la contre-enquête », autour de trois axes, l'émotion, la réflexion et l'évasion, c'est-à-dire la manipulation, autour de ce génocide. Je vous recommande particulièrement le papier d'investigation de Pierre Péan dans ce numéro, chers auditeurs et chères auditrices. Donc un papier qui incrimine clairement le leader Tutsi et président Kagame comme responsable de l'attentat à l'origine du génocide rwandais dans les années 90. Parce que ça aussi, c'est de la rigueur journalistique et du fact-checking, messieurs, dames.
Le Rwanda est un sujet toujours un petit peu gênant pour nous autres Français
Exactement.
Qui ont un petit peu de mal avec l'héritage laissé par la voilà, présidence mais... de ce cher François Mitterrand.
Et le fact-checking, c'est pas seulement pour les Américains.
Et le fact-checking, c'est pas seulement pour les Américains. Il serait peut-être temps qu'en France aussi, ce génocide soit un petit peu reconnu. Et je pense qu'il va être temps de passer à l'économie avec Robin qui vient de nous rejoindre sur le plateau in extremis.
Oui,
bonsoir
c'est pour
Robin,
ça que...
comment vas-tu ?
Tout juste à temps, ça va bien. Merci Rémi. Alors, je suis un peu essoufflé, je vais vous parler d'un chiffre étonnant aujourd'hui. 24 000 milliards, bah. C'est le montant en dollars des transactions qui ont été faites par carte bancaire dans le monde en 2016. Alors, 24 000 milliards de dollars de transactions par carte bancaire. Est-ce que ça vous semble beaucoup à vous ?
Ouais, plutôt.
Bah écoute, je sais pas trop.
Bon, et à votre avis, dans le monde, qu'est-ce qui est le plus élevé ? Le montant par transaction par carte bancaire ou le montant des transactions en cash ?
Moi, j'aurais tendance à dire en cash, ouais.
Oui, en fait, selon Euromonitor, c'est un institut spécialiste de la recherche sur les marchés, l'année dernière, c'était la première année où le montant de transactions par carte de crédit dépassait celle des transactions par cash. Donc ce seuil, il a été dépassé en fait depuis plusieurs dizaines d'années par la plupart des pays occidentaux, mais c'est la première fois qu'on le dépasse globalement. On est formellement passé dans une économie majoritairement scripturale. C'est un processus qui a été très largement renforcé par les nouvelles technologies et notamment par sa diffusion par le monde. Vous n'avez pas été sans remarquer, par exemple, la multiplication des moyens de paiement alternatifs, type Easly, PayPal ou même le système d'ardoise ici à l'ENS.
Et cette dématérialisation, justement, qui nous gagne jusqu'au BDE, comment elle s'opère? Comment l'expliquer?
Il faut comprendre la monnaie comme un processus historique pour l'expliquer, à mon avis. La monnaie est passée par différentes formes. Au Moyen-Âge, elle était largement matérielle. Elle reposait sur des quantités réelles de marchandises, en particulier sur les métaux précieux. À partir du XVIIe siècle, est apparue ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui repose en fait sur un système de reconnaissance de dettes anonymisée. Concrètement, en fait, les banquiers du XVIIe siècle fonctionnaient dans un système de grandes familles réparties sur toute l'Europe. Et ainsi, quand on déposait une certaine quantité d'or dans une banque à Florence, on nous donnait un papier et on pouvait aller chercher cet or plus tard à Paris, par exemple. Peu à peu, ces papiers ont été anonymisés. Donc ainsi, on pouvait échanger les papiers entre eux ou échanger un papier contre un bien. Et c'est comme ça que sont nés les billets de banque. Et les systèmes informatiques actuels permettent de se passer de ce support papier dans un jeu complexe d'échange de reconnaissance de dette qui passe par l'écriture. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Et donc maintenant, à votre avis, les premières formes de monnaie scripturale, elles apparaissent quand dans l'histoire?
Marie.
Le Crédit Lyonnais.
Pas loin.
Je sais. Non, franchement, aucune idée. L'histoire financière, moi...
Non. Bravo.
Oh, dis donc, toi, l'informaticien, tu la fermes?
Le système de l'eau, peut-être?
Non, en fait, elles apparaissent dès la fin du néolithique, avec l'apparition de l'écriture.
Des petites tablettes
d'écriture
cunéiforme.
En fait, il semble qu'avant d'utiliser les monnaies matérielles, les métaux ou les coquillages, les petites communautés de Mésopotamie utilisaient un système comptable écrit pour échanger, donc une monnaie scripturale. En fait, c'est pour vous dire que la dématérialisation de la monnaie, ça n'a rien à voir avec le progrès. Elle repose avant tout sur une transformation des modalités de la confiance et de la manière dont on comprend la valeur en société. En effet, la monnaie scripturale, elle est possible parce que, en Mésopotamie, elle était possible parce qu'on était dans des petites communautés, parce que tout le monde pouvait avoir un regard sur tout le monde. Les échanges étaient faciles à répertorier. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent une meilleure vision des individus les uns par rapport aux autres, et donc la possibilité de créer des conditions d'une confiance globale de type communauté, mais cette fois à l'échelle mondiale. Donc... est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas de cette dématérialisation de la monnaie? C'est assez ambivalent parce que d'un côté, ça permet de fluidifier les échanges, de les augmenter en nombre et en volume, ce qui fait du bien à l'économie. Il y a des études qui ont montré que la dématérialisation permet de faire baisser la criminalité. Par exemple, à New York, plusieurs bars ont décidé de ne plus accepter le cash pour éviter d'être braqués. Mais d'un autre côté, ça oblige à passer par des intermédiaires pour ces échanges, de passer par ceux qui gèrent ces écritures, c'est-à-dire les banques ou des start-up informatiques, ou même des géants comme Apple. Et il y a plusieurs problèmes à ça. D'abord, ces compagnies prennent des commissions sur les échanges. À titre d'exemple, les Américains perdent 500 millions de dollars chaque année à cause d'agressions de type monétaire, mais 8 milliards en commissions pour les cartes bleues. Et l'autre problème, c'est que la monnaie scripturale, elle n'est pas anonymisée. On peut en garder la trace individuelle.
Et du coup, les compagnies qui les gèrent ont des informations sur ces transactions.
Oui, c'est vrai.
Bon, je suis pas un très... ça à l'informaticien que je suis.
Exactement. Je suis pas un très grand fan de la théorie du Big Brother, personnellement. Je dirais plutôt que ceux qui professent la dématérialisation totale de la monnaie oublient qu'une grande partie de l'économie ne passe pas par des canaux institutionnels. Que l'économie informelle est très importante et reste très importante. En fait, il faut penser que différentes formes de monnaie coexistent toujours et c'est leur proportion qui varie. Donc finalement, je dirais que la dématérialisation de la monnaie, oui, dans une certaine mesure, ça facilite les échanges, mais d'un autre côté, supprimer totalement le mode traditionnel qu'on connaît, la monnaie fiduciaire, qui me semble posséder des vertus propres, notamment être garant de nos libertés et permettre cette économie informelle. Donc supprimer cette monnaie fiduciaire, ce serait une mauvaise idée. Et de ce point de vue, pour rester dans l'idée du progrès, on peut mentionner que la communauté informatique, bonjour Rémi, arrive néanmoins à de belles choses, par exemple avec le Bitcoin, qui possède à la fois les qualités d'une monnaie scripturale, la fluidité, tout en conservant ses propriétés d'anonymat.
Merci beaucoup Robin pour cette petite histoire de la monnaie. Et on quitte complètement le champ de tout ce qui touche aux politiques pour nous pencher sur les sciences. Les sciences donc que tu nous présentes pour la première fois, Alice, avec une petite révolution dans le monde de la microscopie.
C'est ça. Il y a quelques mois seulement, des biologistes ont réussi à obtenir des images en microscopie électronique en couleur.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
La biologie, dès ses premiers pas, fut une science d'observation. Observation des animaux, des plantes, classification. Observation de l'anatomie et de la physiologie. Dissection, mutilation. Le biologiste observe le vivant. Observe le vivant perturbé. Perturbe le vivant pour en décomposer le fonctionnement. Et depuis quelques siècles, cette science de l'observation s'est étendue à d'autres échelles. Le biologiste n'étudie plus seulement ce que tout un chacun peut voir. Le biologiste s'introduit dans des rouages de plus en plus petits, de plus en plus fins. Cellules, molécules, bactéries, virus, ADN. Le biologiste étudie même des choses qu'il ne peut voir, la forme des molécules. Cette évolution fut permise par l'invention d'outils de plus en plus sophistiqués, qui permettent de se rapprocher au plus près de ces briques élémentaires du vivant. Ces outils, que vous connaissez sûrement, sont des microscopes, du grec mikros, petit, et scopaine, observer. Observer ce qui est petit, ce qui n'est pas observable. Les premiers microscopes ont été développés par Leeuwenhoek, drapier néerlandais du XVIe siècle, pour juger de la qualité des étoffes. Ces microscopes sont constitués de lentilles minuscules, qui exploitent les propriétés optiques du verre pour agrandir l'image, par effet loupe. Les plus sophistiqués permettent un agrandissement par 300, c'est-à-dire qu'une lettre de hauteur de 10 millièmes de millimètre vous apparaîtra comme parfaitement lisible. Plus tard, ces microscopes dits optiques se perfectionneront pour permettre d'observer des échantillons de plus en plus petits. Toutefois, l'un des problèmes majeurs de la microscopie dite optique, qui emploie les photons, est qu'elle ne permet pas une très grande résolution, et que ce n'est pas en taillant plus finement le verre qu'on l'augmentera.
Alors du coup, comment ça se fait que cette résolution, justement, elle soit limitée ?
C'est dû au fait que lorsque la lumière bute sur un objet trop petit, elle est propagée dans plusieurs directions. C'est ce que l'on appelle la diffraction. Elle se produit lorsque l'on cherche à observer des objets trop petits par rapport à la fréquence d'oscillation de l'onde lumineuse. Ce phénomène fait que la résolution, c'est-à-dire notre capacité à distinguer deux objets très proches, sera proportionnelle à la fréquence de la lumière employée.
Quelle est la résolution, par exemple, des microscopes optiques actuels ?
Certains microscopes optiques descendent, par des méthodes assez complexes, à des résolutions de l'ordre de 100 nanomètres. C'est-à-dire qu'un mot d'un seul millième de millimètre de hauteur qui devient désormais lisible. Le problème, c'est qu'actuellement, la biologie s'intéresse à des objets couramment de taille bien inférieure. Ainsi, un virus mesure habituellement quelques dixièmes de micromètre, c'est-à-dire à peine plus qu'un millionième de millimètre. Pour observer l'intérieur d'un virus, il faut donc trouver autre chose qu'une onde lumineuse.
Autre chose, c'est-à-dire
Une autre onde. Les microscopes qui permettent actuellement le meilleur grossissement ne sont pas des microscopes optiques à photons. Ce sont des microscopes dits électroniques, qui utilisent pour analyser la matière des faisceaux d'électrons.
Alors peut-être un petit rappel de physique atomique pour les lettres qui seraient dans ce studio.
S'il vous plaît.
Donc, un atome est composé d'un noyau et d'un nuage électronique. Ce nuage est constitué d'électrons qui sont de petites particules chargées négativement. Les électrons, lorsqu'ils sont projetés sous forme d'ondes, ont des fréquences d'oscillation bien supérieures à celles des photons. Ainsi, pour une même structure, on pourra être à la limite de résolution d'un microscope optique et voir très bien avec un microscope électronique.
Alors du coup, concernant la découverte dont tu nous parles, où est-ce que ça nous mène, toutes ces histoires ?
Les microscopes électroniques nous mènent à une résolution de l'ordre de quelques nanomètres, qui nous permettent donc de distinguer des objets qui mesurent des centièmes de millièmes de millimètres. C'est l'ordre de grandeur de la taille du virus de la polio, par exemple. Et cette technique a aussi permis de connaître avec une plus grande précision la structure de l'ADN. Ce dont je viens vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, c'est d'une nouvelle technique qui a été développée très récemment par des chercheurs anglais. Il faut d'abord que vous sachiez que ce que les biologistes adorent, ce n'est pas seulement de voir les choses, c'est aussi d'être certain de ce qu'ils voient. Par exemple, quand on fait de la microscopie optique avec des photons, on va aller attacher spécifiquement sur la molécule qu'on veut voir un truc qui brille. Quand on regarde ensuite l'échantillon, on voit donc non seulement la cellule, mais aussi la molécule qu'on a marquée. Le tour de force de ces biologistes anglais dont je vous parlais, c'est qu'ils ont réussi à en faire de même avec des électrons. Ils sont pour cela parvenus à fixer spécifiquement sur des membranes de cellules des métaux instables, qui émettent des électrons avec des niveaux d'énergie particuliers, que l'on peut ensuite détecter et distinguer, tout comme notre œil distingue les photons en fonction de leur niveau d'énergie. Ainsi, cette méthode permet de suivre spécifiquement et avec la précision de la microscopie électronique une structure particulière.
Eh bien, merci beaucoup Alice pour cette première chronique scientifique dans le journal radiophonique Amplifié. On espère que ça ne sera pas la dernière. D'ailleurs, c'est complètement hors de question. Et sans plus tarder, nous passons tout de suite à la culture qui vous est présentée comme d'habitude par notre duo de choc. Bonsoir à tous les deux, Raph et Marie.
Bonsoir Rémi.
Je vous laisse la parole.
Bonsoir tout le monde.
Les Potter, les Ravel, les Berlioz, les Maupassant, les Renoir et les Rembrandt qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Sartex et les Degas, les Pascal et les Goya dont on ne se lasse pas. La culture est une...
Alors, ce soir au programme, on va vous parler de paillettes, de cinéma, de danse et même de cul. Parce qu'il n'y a pas que notre présentateur qui a le monopole du jingle racoleur ou du titre racoleur.
Et donc Marie, on commence par du cinéma avec l'épilogue concernant les Césars.
Oui, parce qu'il y a deux semaines, on vous parlait de la polémique autour du choix du prochain président des Césars, Roman Polanski. Donc finalement, c'est lui qui y a mis fin en annonçant qu'il renonçait à y participer. Donc on attend toujours le nom du futur président, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas. Peut-être que pour une fois, la cérémonie n'aura même pas de président. En tout cas, elle aura lieu le 26 février. On a eu la liste des nominés et donc on attend peut-être une suite. En tout cas, du côté cannois, les choses sont un peu plus claires, puisque c'est Pedro Almodovar qui endossera le rôle du président du jury pour la 70e édition.
Et aux États-Unis, les premiers Oscars sous le gouvernement de Trump s'organisent.
Oui, en effet. Alors, il y a 15 jours, c'était Isabelle Huppert qui recevait aux États-Unis le prix de la meilleure actrice pour Elle aux Golden Globes. Donc, elle a eu l'occasion de lancer un appel assez explicite au monde du cinéma pour rester unie face aux extrémismes et aux dangers d'ériger de nouveaux murs. Et c'est désormais pour les Oscars le réalisateur iranien Asghar Farhadi qui annonce qu'il ne se rendra pas à la cérémonie des Oscars, où il est nominé dans la catégorie du meilleur film étranger pour Le Client. Donc sa décision intervient évidemment suite aux mesures anti-immigration exprimées par Trump.
Et au niveau politique, d'autres artistes n'hésitent pas à prendre position, et cela nous amène ce soir à Angoulême.
Oui, parce que c'est du 26 au 29 janvier dernier que se déroulait le festival de la bande dessinée d'Angoulême, bien connu. Celui-ci est souvent critiqué pour son manque de parité au niveau des artistes qui y sont représentés. Il y a un autre prix cette année qui est venu contrebalancer un petit peu ce constat.
Et oui, et il s'agit du prix des couilles au cul.
Et oui, alors pardon Oula. Pour les oreilles les plus chastes, il s'agit en effet du prix couilles au cul. Alors c'est un prix qui est décerné depuis 2 ans maintenant par le rédacteur en chef de Fluide Glacial, en marge du Festival d'Angoulême, qui choisit de mettre en lumière le travail de dessinateurs qui en ont, c'est-à-dire des caricaturistes qui continuent à prendre des risques pour faire valoir leur liberté d'expression. Et on sait aujourd'hui, c'est pas toujours facile partout, notamment...
À la rédaction de Charlie Hebdo.
Oui, en effet, Rémi, merci pour cette blague de très bon goût. Et notamment, en tout cas cette année, il a donc été décerné à Ramize Erer. C'est une dessinatrice turque qui est rédactrice en chef de Bayan Yani. C'est le seul journal de bande dessinée conçu par des femmes dans le monde musulman. Donc c'est un vrai défi et un vrai pied de nez face au gouvernement islamo-conservateur de Erdogan, qui met, hein, on le sait, ô combien à mal la liberté d'expression et puis celle des femmes aussi, hein, puisqu'au passage, pourquoi s'en priver, hein. Donc Ramize a d'ailleurs dû s'exiler, puisqu'elle dirige aujourd'hui Bayan Yani depuis Paris, à cause des menaces qui pèsent sur elle dans son pays. Et pour Yann Lindingre, qui lui a donc décerné le prix, ses BD taillent en pièces le machisme de la société turque et mettent en scène des femmes libres et impertinentes dans un pays conservateur. Elle méritait largement qu'on lui rende hommage.
Et on change d'univers cette fois et on continue ce journal sur la scène lyonnaise avec ce mois-ci un festival de danse aux subsistances.
Oui, ça se passe depuis le 26 janvier et jusqu'au 12 février. C'est l'espace culturel des subsistances qui organise ce mois de la danse. Alors le moi, c'est ici MOI, le moi qui cherche qui je suis, le moi qui tâtonne, qui tente de saisir ses limites, et le moi donc qui danse. Et la question ici, c'est qui est-il ce moi qui danse? D'où vient la source de ses mouvements, de ses hésitations, de ses moments de grâce ou de faiblesse? Finalement, autant de questions assez passionnantes qui réunissent en ce moment chorégraphes et danseurs, mais aussi commissaires d'exposition et bien sûr public. Puisque vous pouvez voir donc de la danse avec des chorégraphes à la notoriété assez affirmée déjà, ou bien d'autres chorégraphes moins connus à découvrir. En tout cas, ce vendredi, ce sera l'occasion de voir l'adaptation par Boris Chartmat et Frank Willens, l'adaptation de la création de Tino Segal, sans titre 2000. C'est une œuvre qui a fait date donc, en 2000, puisqu'il a marqué, il y a 17 ans les esprits en exposant finalement le concept de danse scénique du XXe siècle, qui était cette fois-ci associé à une conception du corps proche de l'univers du musée. Donc c'est l'occasion de redécouvrir cette pièce vendredi soir. Et le festival propose également de découvrir une petite exposition, la danse contemporaine en question, qui permet de revenir brièvement sur des grandes thématiques comme le spectacle, la technique, le rapport au monde ou encore les liens aux autres arts qui peuvent s'exprimer aujourd'hui dans la danse et sur scène. Donc vous pourrez également y danser à l'occasion de certains courts minutes de 30 minutes qui sont proposés les samedis et dimanches. Alors je ne sais pas s'il y a des amateurs autour de la table. Bon, en tout cas pour moi le contenu reste encore assez énigmatique. Je ne sais pas vraiment ce qui est proposé, mais en tout cas ça peut attirer votre curiosité ce week-end. Aller danser un petit peu aux Subsistances.
Et donc tout cela se passe aux Subsistances et jusqu'au 12 février, une programmation riche qui est à découvrir sur le site internet du Mois de la Danse. Pour finir, un spectacle classé immanquable au Radiant Bellevue.
Oui, c'est le Radiant donc, qui nous donne rendez-vous le 4 février pour une pièce politique écrite et portée sur scène par le rappeur Kerry James, qui est connu pour ses textes engagés et qu'on qualifie souvent de rappeur conscient. Donc ça, la pièce s'intitule « À vif », c'est son nom. Et je laisse planer un peu de suspense parce que Raph viendra nous en parler plus tard. Il ira normalement voir cette pièce. On espère, en tout cas c'est un rendez-vous à ne pas manquer autour du rappeur Kerry James et de cette pièce engagée. On passe donc à ton billet, Raph. Puisque aujourd'hui, on continue notre exploration de la littérature théâtrale à travers une parution récente des éditions Espace 34, qui est dirigée par Sabine Chevalier et basée près de Montpellier. C'est bien ça?
Oui, en effet, il s'agit d'une pièce de David Léon, donc qui est intitulée La nuit et la chair et qui a été éditée en mai 2016. Alors, cette pièce fait partie de la collection Théâtre d'Espace 34, maison qui est très importante dans le répertoire théâtral contemporain, puisqu'elle publie entre autres également Claudine Galéa et Samuel Gallet.
Et tu nous parles de cette pièce puisque la première aura lieu le jeudi 2 février, donc demain soir, au théâtre Jacques Cœur de la Thèse près de Montpellier, dans une mise en scène d'Alexis Lameda-Waxman. Alors, big up à tous les Montpelliérains qui nous écoutent.
Oui, en effet, donc cette pièce évoque une rencontre amoureuse. Donc ce qui pourrait se passer, tout ce qu'on pourrait se dire ou ne pas se dire au moment des premières étreintes et des premières séparations. Donc le texte se décline vraiment sous une forme assez particulière, proche d'un flux romanesque, où les interventions, qu'il s'agisse de pensées ou d'esquisses des dialogues des deux personnages principaux, sont marquées typographiquement dans le texte par des italiques ou des crochets.
Alors quelle est la fable de cette pièce?
Alors la trame en est très simple. Une femme ou un homme, donc, qui est le narrateur de l'histoire et dont le sexe est indéterminé en raison de la présence de double accord, rencontre un soir dans un théâtre au relent un peu aristocratique un homme qui détient une certaine aura de pouvoir puisqu'il apparaît comme conseiller d'une ministre, énigmatique elle aussi. Ils se parlent, s'échangent des regards et se retrouvent dans l'appartement de l'homme un peu plus tard. Autour de cette trame se tissent différents fragments qui rendent compte à la fois de toute la sensualité et de toute la brutalité d'une rencontre d'un soir, ou pour parler plus trivialement, d'un coup d'un soir. La voix du narrateur est une voix assez intense, voire même drôle, puisqu'elle commande sous forme d'incises ou même en contrepoint les paroles parfois assez crues de l'homme.
Alors au-delà des faits, qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre de si particulier ou même peut-être de poétique?
Alors, au début d'une relation, quelle que soit la qualification qu'on puisse lui donner, il y a, comme le dit le titre, la chair et la nuit. Et puis après, il y a les mots, il y a les échanges, ceux qui nous font naître l'un à l'autre. Échanges qui sont toujours esquissés et qu'aucun mot définitif ne saurait briser. Dès lors, ce que montre cette pièce, c'est que lorsque ces deux êtres se rencontrent, chacun a une manière bien à lui de se leurrer et de paraître autre qu'il n'est pour se protéger et pour ne pas disparaître derrière le désir de l'autre, dont la langue creuse avidement sa bouche. Et j'utilise ici une métaphore de l'auteur.
Bon, alors la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui fait l'érotisme de cette pièce ?
Alors du coup, l'érotisme vraiment se situe dans les repérages de l'histoire d'amour qui naît au cours des premières étreintes. Et pour reprendre une expression de Lagarce, qui a lui-même écrit « Histoire d'amour, repérage », une pièce qu'il a intitulée ainsi. Et donc, comme chez Lagarce, dont David Léon semble vraiment suivre le sillage, il y a une manière distanciée d'exprimer les choses. L'écriture rythmée de la pièce fait que les personnages ont une façon paisible et détestable, au sens où ça peut être vraiment frustrant pour le lecteur d'être calme en toutes circonstances, alors qu'on assiste au cours de la pièce à des moments d'une violence assez âpre. Enfin, c'est une pièce sur la jouissance et le vertige à jamais inachevé de leur rencontre, sur les prémices d'une histoire d'amour encore non écrite et qui peut-être même ne s'écrira jamais.
C'est donc à lire absolument.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce volet culturel du journal radiophonique Amplifié. Avec ta chronique fidèle à tes thèmes favoris finalement, Raph, une fois de plus. Hein.
C'est pas de ma faute. Hein, c'est
la poésie, toutes ces choses-là. Il est quasiment 20h36 sur Transistor et il est temps de retrouver la deuxième nouvelle voix de cet amplifié. Bonsoir à toi Alice.
Bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde. Donc bonjour à tous, moi je suis plutôt là pour vous parler de culture pop et de geekerie en tout genre parce que de toute façon c'est là où je suis la meilleure. Et pour cette première, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va mettre un petit peu, et oui là je suis en train de faire des guillemets avec mes mains, de couleurs dans votre vie, parce qu'on va parler de dessins animés. Alors les dessins animés c'est quand même l'occasion, on le dit pas assez, mais de se poser des questions sur la société et sur son évolution, et également de voir l'influence de ces dessins animés sur notre société. Ce sont des canaux quand même assez clés pour aborder de nombreux thèmes et les adapter à un public plus jeune. Et malgré le caractère enfantin de ces séries, elles sont souvent plus sérieuses qu'il n'y paraît et ont souvent une profondeur qu'on n'imagine pas forcément en les regardant comme ça. Et donc j'ai choisi la représentation du genre et de la sexualité dans les dessins animés à travers l'exemple d'Adventure Time parce qu'on n'a pas trop peur à Transistor. Alors comme vous le saviez peut-être ou pas d'ailleurs parce que peut-être que bizarrement vous ne passez pas votre vie à attendre des dessins animés comme moi, la dernière saison d'Adventure Time est sortie lundi dernier et pour commencer je vais quand même vous raconter un petit peu ce que c'est. C'est une série animée qui a été créée par Pendleton Ward et on y suit l'humain Finn et son frère adoptif Jake le chien au pouvoir magique dans un monde post-apocalyptique où le royaume le plus puissant est celui des bonbons. Donc on peut dire que ça change de Mad Max. Ce royaume des bonbons est confronté à de nombreux dangers, dont le plus grand est très probablement son propre dirigeant, qui est la princesse Bubblegum, une scientifique invétérée à l'origine d'au moins 3 zombies apocalypse. On y croise aussi le roi des glaces, un méchant pas si méchant, Bimo, une petite console de jeu qui parle, Marceline, la reine des vampires, et toute une ribambelle de princesses. Je ne vous fais pas le détail, mais il y a par exemple une princesse des petits déjeuners. Alors... voilà, ça c'est le moment où tout le monde a bien rigolé dans le studio et me regarde en se demandant ce que je, enfin, à quoi je passe mes journées. À quoi,
à quoi passes-tu tes journées et ta vie, Alice ?
Eh bien, vous n'avez pas trop envie de savoir. Alors bon, bref, je vais quand même retourner à mes moutons. Pourquoi Adventure Time ? Bah, parce que c'est vraiment un bon exemple de série qui part dans la bonne direction, qui essaye de faire des choses, mais qui va pas jusqu'au bout comme beaucoup de dessins animés aujourd'hui. Donc on va pas cracher dessus, il y a vraiment des points positifs, parce qu'un certain nombre de personnages ont des genres, par exemple, non-binaires ou des sexualités queer. Et vous vous souvenez, par exemple, de la petite console de jeu ambulante, Bimo. Et bien ça, c'est un bon exemple de personnage gender fluide, parce que selon les moments, il est identifié à l'un ou l'autre genre. C'était vraiment la grande question au début de la série, parce que tout le monde se disait, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon ? Bah finalement, on n'en sait rien. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est aussi un petit peu le but. Et le deuxième élément qui fait qu'Adventure Time a tendance à réjouir la communauté LGBT queer et plus, c'est le couple implicite qui est formé par la princesse Bubblegum et Marceline. Donc le fait que ces deux personnages se connaissent depuis des années, de même qu'un certain nombre de détails avaient déjà mis la puce à l'oreille des fans, et c'est la doubleuse américaine de Marceline qui a confirmé cette théorie en déclarant que les deux femmes étaient sorties ensemble par le passé, etc. Et malgré ça, rien n'a vraiment été officialisé dans la série, et à mon sens, c'est là qu'Adventure Time pêche. Son créateur a expliqué qu'un couple lesbien explicite vaudrait à la série d'être censuré, voire annulé dans de nombreux pays. Donc une telle réponse nous donne déjà l'une des raisons principales de la sous-représentation de tels personnages dans ces séries. Et en même temps, on peut vraiment s'interroger, est-ce que c'est un argument qui est si justifié que ça ? Parce que, bon déjà, on peut avoir le côté éthique, tout ça, de se dire qu'on ne devrait pas avoir à normer des personnages. Et puis, d'un point de vue très pragmatique, le fait est qu'il y a d'autres séries qui ont des personnages ouvertement gays ou lesbiens et que ça ne pose pas particulièrement de problème au niveau des audiences. Et on peut parler notamment d'un autre dessin animé qui s'appelle Steven's Universe, qui représente tout à fait ce type de diversité, enfin d'ailleurs toutes les diversités raciales, etc. Et effectivement, on voit que le héros de la série a en plus de ça, non pas une ni deux, mais trois mères, ce qui aborde de façon un peu cache la question de la parenté entre guillemets non normée qui fait toujours débat, de toute façon on le voit encore aujourd'hui aux États-Unis et en France. Mais je vais quand même terminer sur une bonne nouvelle. Le nombre de dessins animés qui présentent des personnages queer augmente et il nous reste plus qu'à espérer que malgré le contexte actuel, ces personnages seront bientôt tellement banals qu'on ne les remarquera plus.
Merci beaucoup Alice pour ce petit voyage au pays des méchants bonbons.
Ah mais de rien, ça me fait plaisir.
Et nous passons donc à la dernière chronique de cette émission.
4, 3, 2, 1, 0.
Bonjour à tous,
bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui,
chers auditrices, chers de transistor,
chers auditrices,
chers de transistor,
bonjour à tous,
bienvenue,
chers radio transistor,
chers auditrices, chers auditrices,
bonjour à tous.
Ceux d'entre vous qui suivent Transistor depuis longtemps auront sans doute reconnu quelques voix dans ce jingle, issu de ces archives que nous avons retrouvées il y a quelques mois et que nous remettons petit à petit en ligne sur notre site. Plus exactement, ce jingle est historique, chers auditeurs, c'est celui de la première diffusion en direct de Transistor, ici même au studio d'ENS Média. Mais parce que vous n'en avez rien à cirer de savoir que j'ai passé la soirée d'hier à écumer les archives de Transistor, j'en viens donc à ma chronique et je commence précisément avec un autre jingle de première fois, ici les débuts en 1985 sur l'obscure radio stéphanoise M Radio d'un lycéen de 16 ans nommé David Massard. Lequel David, donc, est depuis devenu la grande idole des jeunes, le matinalier de tous les bus scolaires, l'homme qui seul sut mettre une abnégation suffisante à produire de la merde pour le mener en une vingtaine d'années à Fun Radio, M6 et Skyrock, s'il vous plaît, D-Fool. Bon, redevenons un petit peu plus sérieux maintenant. Oui, aujourd'hui, je voulais parler du compte SoundCloud Un jour, un jingle lancé par le site Le Transistor avec un A, ils savent vraiment pas écrire. Compte SoundCloud, donc, auquel s'associe un compte Facebook et Twitter pour les plus connectés d'entre nous, coucou Céline, qui propose, comme son nom l'indique, un éphéméride radiophonique, radiophonique donc, au rythme d'un jingle par jour. Le jingle, objet du quotidien en radio, mais qui est quand même terriblement marqueur d'une époque et d'un type de radio comme ce kitschissime jingle de nostalgie de 1988 que nous venons d'entendre.
Ça vieillit mal. Hein.
Ouais, ça vieillit mal, oui. Et certaines trouvailles donc sur ce compte sont assez fascinantes, comme ce jingle créé en 2009 par une maison de production de jingle américaine qui avait essayé, pour se faire un coup de pub, d'imaginer l'habillage de Radio Obama. Voilà, tous ces sons montrent aussi la diversité de notre paysage radiophonique et donnent un témoignage décalé du salvateur déferlement de mauvais goût que causa en son temps l'ouverture de la bande FM, parce qu'il y a vraiment un certain nombre de perles. Alors bon, j'ai quand même choisi un petit peu les meilleurs ici. Une libéralisation de la bande FM que célébrait en 1991, et je terminerai là-dessus, l'association Vive la Radio.
C'est le scoop
le plus fort auquel vous ayez assisté. Dans ce coin du bout du monde, là-haut, le sommet du volcan vient d'exploser. Le ciel est en feu, les rues envahies par la foule, et vous êtes là, témoin de cet incroyable événement. Oui, mais ni téléphone, ni liaison par satellite, pas même du papier et un crayon. Vous restez muet, vous ne pouvez pas raconter. Eh bien, la vie sans la radio, c'est pareil. Ça n'a plus aucun son, ça n'a plus aucun sens. Sans radio, la vie serait muette.
Et voilà, voilà, je vous renvoie donc vers cette page. Un jour, un jingle, ça n'existe pas depuis très longtemps, mais j'espère que c'est promis à durer un certain temps, parce qu'on y trouve quand même des trucs assez réjouissants, et je reviendrai dans une prochaine chronique sur d'autres jingles un petit peu plus particuliers que je tiens absolument à vous faire découvrir. C'est fini pour cette édition du journal radiophonique Amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Mathias Soubis, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Alice Alasmar, Marie Blanc, Raph et Alice Rabillou avec la technique Marie Lécuyer et Aurore Sasportes qui nous a rejoint en guest star. Puis comme d'habitude, tous nos remerciements vont à Francis Ouedraogo et Sébastien Boudin de NS Media pour leur soutien logistique. La semaine prochaine, l'information est de retour avec votre direct du 8 février sur transistor.fr, 6 ans et 4 jours après le premier, donc ça sera à 18h dans En ce moment, toujours comme d'habitude sur transistor.fr.